Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Trends Talk. Fera-t-il bon investir dans des projets entrepreneuriaux en 2023? L'innovation est-elle une réponse à la volatilité du monde? C'est des choses dont on va parler avec Claire Monk, qui est CEO de Be Angels. Alors, vous êtes une entreprise, une agence qui soutient financièrement des projets, des startups, etc., un peu en dehors des circuits classiques. Vous êtes une interface, en fait, entre des investisseurs et des entrepreneurs, je résume bien.
Oui, bonjour Olivier, tout à fait. On est une sorte d'écosystème où on met en contact des startups avec des investisseurs privés.
Voilà. Et qu'est-ce que ça représente? Alors, par exemple, en 2022, qu'est-ce que ça représentait en termes d'investissement, en termes de projets soutenus?
Donc, en 2022, c'était un peu plus de 7,5 millions d'euros investis dans une soixantaine d'entreprises, donc avec à la fois des plus petits investissements pour des dossiers qui sont en tout démarrage ou des plus gros investissements pour des dossiers qui sont un peu plus matures, puisqu'on intervient dans notre jargon du pré-seed, donc vraiment démarrage de l'idée, à la pré-série A, donc quand même quand on commence à aller chercher la croissance.
Alors les investisseurs, c'est qui? Ce sont des business angels, c'est ça? Des gens qui à un moment ont envie de soutenir des projets essentiellement ou
Oui, alors majoritairement des investisseurs privés, on va dire, dont une certaine partie sont des business angels, comme on l'entend, c'est-à-dire des personnes qui veulent dédier une partie de leur patrimoine pour investir dans des startups, mais vont aussi vouloir être assez actives, vont vouloir accompagner, participer à un conseil d'administration ou l'autre pour vraiment apporter la valeur ajoutée en plus du capital. Et en fait, chez Be Angels, on a plusieurs façons d'investir qui permettent à des profils qui sont plus ou moins actifs d'investir. Donc, on a aussi, on va dire, des formules d'investissement qui permettent à des personnes qui sont plutôt des investisseurs privés d'avoir un impact aussi en soutenant des sociétés de type start-up ou scale-up, en participant à des fonds, en étant un peu moins actifs. Mais la grande majorité de ce qu'on fait, c'est effectivement recruter des personnes qui veulent être des business angels en investissant en capital et en temps pour aider les entreprises de demain.
Et alors, des entreprises de demain dans tous les domaines, c'est ça? Enfin, il y a pas, il y a des accents particuliers. Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur, par exemple, récemment?
Alors nous, on est ce qu'on appelle agnostique en termes de secteur. Donc on va pouvoir aider des entreprises dans tous les secteurs d'activité, sauf deux, donc pas d'immobilier et pas d'horeca. Ce qu'il faut, c'est que ce soit des sociétés qui soient innovantes. Et alors innovation technologique, innovation dans les services, innovation dans la façon dont on met un service ou un bien sur le marché et qui a un fort potentiel de croissance, parce que c'est dans ces cas-là qu'on va voir en fait des investisseurs privés de type business angel pour dire ben voilà, je démarre, je suis allé voir la banque qui me dit ben non, vous n'avez pas de chiffre d'affaires encore, vous n'avez pas de capacité de remboursement, on ne peut pas vous aider, et puis on va voir des fonds de capital risque qui vont dire ben c'est encore trop jeune, revenez quand vous commencez à avoir l'attraction commerciale. Donc ça c'est un peu le positionnement, on va aider en général des sociétés qui viennent nous voir pour des besoins de financement entre 100 000 et 500 000 euros. Et après, donc, l'innovation qu'on a vue dernièrement, si je regarde la dernière année, des choses très intéressantes comme la société Eternetix qui vise à décarboner l'Internet en réduisant l'empreinte carbone de ce qu'on appelle les CPU hein, dans les centres de data. On a toute une série de sociétés qui visent à désintermédier aussi un certain nombre d'activités ou de métiers comme WellExit qui souhaitent que la loi soit au service de tous et qu'on puisse avoir accès à un avocat de manière assez rapide, surtout pour des gens pour qui la loi peut être assez intimidante. On a soutenu un dossier aussi comme PAGS qui en fait propose des solutions pour des gens entre eux, enfin voilà, des jeunes personnes qui ont besoin d'être accompagnées au niveau éducatif, donc notamment les enfants autistes, etc. Donc c'est des nouveaux modes d'éducation. Et évidemment par le
digital. Des évolutions sociétales aussi.
Enfin, tout à fait.
C'est des contributions quand même à l'évolution de la société, quoi. C'est ça, oui.
Complètement. Donc, en fait, l'innovation, vraiment, c'est et l'entrepreneuriat, c'est voir constater des problèmes et ne pas se dire bon, ben, on a un problème. C'est plutôt se dire est-ce que j'ai une solution que je peux apporter, que je peux construire. Et donc, les business angels sont là pour apporter une pierre à l'édifice, pour pouvoir financer au début ces projets.
Alors, est-ce que le contexte est évident? J'avais lu une interview que vous avez accordée à nos confrères de l'Écho, si je ne m'abuse, fin 2022. Mm-hmm. Vous exprimiez un peu une frustration. Ben, c'est vrai que la période a été compliquées. On a eu le Covid, on a la crise géopolitique, la crise énergétique, etc. Est-ce que, du coup, les investisseurs freinent un peu leurs ardeurs ?
Oui, alors 2022, c'était effectivement une situation qui était très compliquée parce qu'il y avait énormément d'indécisions. Donc c'est vrai qu'en tant qu'écosystème ou plateforme, BeAngels, bon, nous on était à fond, mais comme un navigateur qui est à fond, mais en vent contraire. Donc c'est un petit peu épuisant et c'est un petit peu frustrant parce qu'on sent que malgré tous les efforts qu'on peut déployer, ça ne va pas dans la bonne direction. Maintenant, début 2023, je dirais que la tendance a l'air de s'améliorer. On a déjà un certain nombre de dossiers qui ont été clôturés. Et je vois que les investisseurs ont tendance à être là, réactifs, un petit peu plus qu'en 2022 où il y avait beaucoup de flottement, un peu plus de temps pour prendre des décisions. Donc j'espère que 2023 sera une meilleure année où on aura le vent de dos pour pouvoir grandir.
Vous parliez aussi d'une crise de valeur et de sens, si je ne m'abuse. C'était dans quel sens qu'il fallait comprendre ça ? Ou c'est peut-être moi qui ne l'ai pas compris, mais...
Non, je pense ce que je voulais dire par là, c'est qu'avec le Covid, donc, qui a été quand même un grand chamboulement dans la vie des personnes, on a vu qu'il y a beaucoup de monde qui s'est posé des questions sur la manière dont ils vivaient à titre personnel, dans la manière dont ils travaillaient, dans la manière dont ils interagissaient avec les personnes ou avec le monde. Ça s'est renforcé, je pense, avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, la perspective de récession, puisqu'en fait, c'est quand même une accumulation de mauvaises nouvelles pendant 3 ans.
Donc ça veut dire quoi ? Un repli sur sa, repli sur sa vie privée, sur une réflexion sur la qualité de la vie ?
Une réflexion en général. Et donc, comment est-ce que ça se traduit dans notre métier ? Du point de vue entrepreneurial, des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, des gens qui ont peut-être quitté leur activité pendant le Covid ou autres, qui se sont dit, mais en fait, j'ai pas envie d'être employé, j'ai envie de trouver des solutions pour les problèmes environnementaux, sociétaux.
Positif.
De santé, ça c'est positif. Et de la même manière, beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour devenir investisseurs dans la start-up en disant moi j'ai un petit peu de patrimoine, j'entends dire que je peux éventuellement faire du capital risque et être business angel. Et je comprends que c'est un moyen aussi de soutenir l'innovation, mais aussi soutenir l'économie qui est assez locale, puisqu'on va soutenir des sociétés qui sont vraiment très près de nos territoires. Quoi.
Oui, donc c'est pas une période nécessairement de repli dans le sens où les gens se disent moi je veux plus me consacrer autant à une activité ou à me lancer dans une entreprise parce que j'ai envie, on dit souvent ça, pour le moment, notamment dans les cadres, des entreprises ont du mal à trouver des employés parce que les priorités sont ailleurs, quoi. C'est pas ça en fait.
Alors, c'est pas ça qu'on constate, nous, dans notre écosystème. Maintenant, les startups ont aussi du mal à recruter. Hein. Ouais. Si je regarde après les startups qu'on a en portefeuille, ont du mal à recruter, ont du mal à garder les employés. Donc, le challenge se retrouve quand même, bien entendu, dans notre domaine. Après, c'était pas forcément un repli sur soi. Le fait qu'on ait eu... Donc, on a eu autant d'investissements que 2021, ce qui est une très bonne nouvelle, mais beaucoup moins de premiers financements. Donc, les sociétés qui ont le plus souffert, c'est les sociétés qui étaient plus jeunes, ce qu'elles qu'on va dire sont en seed, donc sont en phase de démarrage, mais parce qu'elles sont plus risquées. Donc en fait, ce n'était pas un repli de la part des investisseurs, c'était plus le fait de devoir garder de l'argent pour réinvestir dans les dossiers qu'on a déjà en portefeuille, parce qu'on sait que les sociétés sont fragilisées par toute une série de facteurs qu'elles ne contrôlent pas, qui sont des facteurs d'écosystème. Et après, les gens qui s'intéressent à l'activité en 2022, qui disent « tiens, c'est chouette, j'ai lu le Trends, je pense que j'ai envie d'être business angel », et puis ils disent « ouais, mais finalement, on me dit quand même que ça va être très compliqué en 2022, donc je ferai peut-être ça en 2023 ». Donc c'est pas forcément un repli, plus de l'hésitation et de l'indécision qui a été le problème.
Alors clairement, chaque semaine, on demande à notre invité d'épingler, de mettre en lumière peut-être un fait économique dont on parle moins ou pas assez. Vous, je pense que vous avez envie de parler d'une lame de fond, en fait.
Oui, c'est vrai que ça me tient un petit peu à cœur, mais un fait dont je trouve on ne parle pas assez et qui est une lame de fond, je pense, c'est tout le problème de la gestion des données personnelles, le problème de la mise en danger de la démocratie qui est liée à la gestion de ces données personnelles. On en parlait dans le cadre de la préparation, mais j'ai beaucoup aimé le livre de Christopher Wiley, qui est le cofondateur de Cambridge Analytica, qui, je pense, est un de ces livres dont on ne sort pas indemne En tout cas, ça pose énormément de questions.
C'est tout ce système qui, en fait, a manipulé des élections.
Faire des tests en renversant des gouvernements, à impliquer...
Le Brexit, à accompagner le Brexit pour faire basculer le Royaume-Uni vers la sortie de l'Union européenne. Enfin, c'est tout ça, en
fait. Et donc, moi, je trouve que c'est un fait qui est extrêmement grave, qui a été révélé. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne saisit pas vraiment toutes les implications que ça peut avoir, parce que on voit maintenant, en plus avec la dernière année, les populismes qui remontent, le sens critique qui a l'air de disparaître. On se préoccupe beaucoup moins de savoir si chaque individu et chaque citoyen est maître de son propre esprit, d'avoir ses propres opinions. Et je trouve tout ça est lié, et c'est fondamental, c'est une lame de fond, parce que de cela dépend, je dirais, le bien-être de nos sociétés, la démocratie et la bonne intelligence entre les individus et les citoyens. Donc je suis assez alarmée que ça soit une manchette de journal, peut-être, ou un fait comme un autre. Et je trouve que ce n'est pas un fait comme un autre, c'est absolument structurant.
C'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Par exemple, dans l'innovation et les start-up, il pourrait y avoir des éléments de réflexion là-dessus ou des...
Oui, tout à fait. Mais je pense que notamment à Bicentrale, là où nous sommes basés avec BeAngels, il y a un certain nombre d'associations de start-up qui travaillent justement à ces problématiques-là, de s'assurer qu'on garde les fondements d'une société démocratique, et donc de savoir comment est-ce qu'on se protège par rapport à la gestion des données, et peut-être comment est-ce qu'on s'assure que les générations futures maintiennent un sens critique et s'intéressent en fait aux choses, à l'actualité, sans avaler de l'information, mais en la digérant, en la disséquant et en pouvant donner son opinion qui est informée. Et c'est un sacré challenge, je pense.
Il y a un travail d'éducation à faire sur lequel certains aussi se positionnent en termes de business pour quelque part accompagner l'éducation traditionnelle, quoi. J'imagine que ça aussi, ça fait partie de la réflexion, quoi.
Ça fait partie de la réflexion, tout à fait, et aussi des nouveaux modes d'éducation, puisque on a des générations où il faut changer la façon dont on intéresse les enfants, parce que les modes les comportements ont changé. Évidemment, il y a les nouvelles technologies, c'est plein de nouvelles choses qui seraient très intéressantes, mais donc il faut aussi changer la manière dont on aborde l'apprentissage pour les enfants. Donc ça, c'est beaucoup d'innovations, de potentiel, de nouvelles entreprises dans ces secteurs-là.
Parce que quelque part, on est dans une période marquée par des transitions, quoi, dans tous les sens. En fait, les transitions numériques, la transition énergétique, où on bascule dans nos modes de référence sur le plan énergétique, une transition économique même plus large. Enfin, c'est un terreau pour vous, tout ça, quand je dis pour vous et pour les entreprises que vous soutenez, quoi, pour quelque part apporter des nouvelles idées, essayer de nouveaux modèles.
Oui, d'ailleurs, c'est une des principales raisons pour lesquelles les gens sont intéressés à devenir business angels. C'est parce qu'en fait, ils sont bien conscients que l'innovation et tout ce qui va pouvoir répondre à des problèmes de demain, ce sont les entrepreneurs qui vont l'apporter. Alors, ça peut être des entrepreneurs qui vont développer des sociétés sur base de choses qui ont été développées dans les universités, donc dans le monde de la recherche, etc. Mais ça peut être aussi des gens qui vont penser différemment pour pouvoir apporter des solutions à des problématiques, on disait, qui touchent à tout. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Donc, effectivement, on pourrait dire qu'avec tout...
Il y a une vraie implication démocratique, quelque part,
ces problèmes, c'est plein d'opportunités pour que des entrepreneurs proposent des solutions, trouvent des solutions.
C'est ce qui vous fascine, vous, là-dedans ? C'est ce côté, l'innovation est une réponse, en fait, c'est ça ?
Ah oui, c'est fascinant parce qu'on passe notre temps. Enfin, mon métier, c'est rencontrer des gens qui trouvent des solutions à des problèmes et qui sont extrêmement résilients. Donc beaucoup d'ambition, beaucoup de vision et aussi avec des investisseurs qui sont prêts à risquer une partie de leur patrimoine pour participer à des aventures entrepreneuriales en investissant dans les startups. Donc c'est vrai que c'est un contexte assez intéressant dans lequel travailler, parce que on est parfois complètement hermétique à l'actualité et à la mauvaise humeur. Parce que nous, toute la journée, on voit des gens qui proposent des solutions, qui trouvent des solutions, qui veulent financer des solutions. Et de l'autre côté, des gens qui sont prêts à prendre des risques avec une partie de leur patrimoine pour dire, clairement, ça devrait être sur le marché dans plusieurs années.
Alors l'enjeu et la difficulté, on le dit souvent, c'est de concrétiser l'essai. C'est-à-dire que il faut avoir l'idée, il faut la lancer, mais surtout, en fait, et en Belgique peut-être particulièrement, en Belgique francophone, on dit c'est faire grandir la start-up pour qu'elle devienne, qu'elle sorte de son lit, en quelque sorte. Comment on fait ça pour, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites, et est-ce qu'il y a des solutions pour accompagner des entreprises et les faire grandir?
Oui, je pense que l'écosystème, en tout cas de soutien aux entrepreneurs, a beaucoup évolué ces dernières années, notamment en Belgique francophone. Donc je pense qu'il y a un très bon système d'accompagnement pour faire émerger des entreprises depuis des idées. Il y a toute une série de...
Temps privé que public ou...
Temps privé que public, ça peut être des accélérateurs, des incubateurs, qui vont aider en fait les entrepreneurs à différents moments de leur expérience. Et donc, effectivement, le début, c'est on a une idée, comment est-ce qu'on transforme cette idée en projet d'entreprise? Et nous, on va voir les entrepreneurs au moment où ils ont un projet d'investissement. Donc, ce n'est pas au niveau de l'idée, il faut quand même avoir structuré l'idée, il faut pouvoir l'exprimer dans un potentiel de croissance, dans un besoin de financement, pour que ce soit le bon moment de le présenter à des investisseurs pour un premier tour de financement. Parce que ce n'est pas rare que nos business angels interviennent en même temps que les copains, un peu d'argent du fondateur, la famille. Donc on intervient très très tôt, mais c'est quand même au moment où on se dit, bon, soit on va, ça y est, on va sur le marché, on a testé quelque chose, soit on a commencé à tester, on voit qu'il y a l'attraction, maintenant il faut y aller à 100%. Donc nous, on va vraiment intervenir sur ce moment-là. Après, si on se dit, tiens, il y a encore trop de questions, eh ben, on va renvoyer les entrepreneurs vers toutes ces structures d'accompagnement privées, publiques, pour dire, il y a encore un peu de boulot.
C'est pas après, c'est quand la mayonnaise prend petit à petit, est-ce que le plus difficile n'est pas le moment où on doit faire grandir, recruter
Oui, mais donc c'est justement pour ça que les entrepreneurs vont lever des fonds. C'est de dire, bon ben voilà, là il y a vraiment... on va créer une entreprise et puis on va commencer à recruter des profils clés pour commencer à se mettre sur le marché. Et puis quelques années plus tard, on espère, ou même beaucoup plus vite, on va vouloir relever des fonds pour pouvoir accélérer parce qu'on a trouvé son marché, parce qu'on a des clients et qu'on doit s'en occuper beaucoup mieux, parce qu'on a des opportunités de développement à l'international. Donc après, il va y avoir des sources de financement qui sont adaptées pour différents stades de développement des entreprises. Donc, et nous, on peut s'y retrouver, on peut se retrouver à plusieurs stade avec plusieurs, je dirais, outils qu'on a développés. Mais notre cœur de métier, c'est ce qu'on appelle l'amorçage. Hein, donc, c'est-à-dire, on n'est pas au niveau de l'idée, on n'est pas au niveau, je dirais, de ce qu'on appelle le prototype ou le minimum viable product. On a quand même ça et on a quand même un début d'équipe et parfois on a un début de traction. Et à ce moment-là, on se dit, OK, maintenant, on va aller essayer de convaincre des tiers que c'est le moment de se lancer et de nous accompagner sur les 18 prochains mois pour prouver quelque part qu'en tant que fondateur, on a une idée qui vaille la peine. Et certainement qu'elle changera. En tout cas, le chemin va changer souvent dans les 18 mois, mais ça, c'est normal, c'est la vie de start-up.
Vous dites que vous êtes entouré de gens qui apportent des solutions et que vous avez du coup un regard relativement optimiste sur l'évolution des choses, ce qui est plutôt bien. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans une préoccupation par rapport à l'avenir de Bruxelles et de la Wallonie? Est-ce que c'est présent dans votre démarche, le fait que souvent on épingle les difficultés de redressement d'une Wallonie industrielle, d'une Bruxelles qui change? Est-ce que c'est présent? Enfin, pour vous, c'est aussi une vocation qui s'inscrit là-dedans. De fait, on contribue à un projet commun, en fait.
Alors oui, c'est une vocation, mais en fait, je crois que c'est l'essence même de l'existence de Be Angel. C'est-à-dire qu'à la base, pourquoi est-ce qu'on a créé des réseaux de business angels? C'est pour que la rencontre entre des porteurs de projets ambitieux avec des projets innovants et des investisseurs privés ne soit pas anecdotique ou le fruit de réseaux privés de quelques-uns qui connaîtraient les bonnes personnes pour les financer. Et donc, en fait, la naissance des réseaux de business angels, c'est vraiment d'essayer de systématiser l'accès au capital pour plus d'entrepreneurs qui doivent lever des fonds. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il y a un travail de fond, de création de la place de marché de Be Angels, qui travaille main dans la main avec les acteurs publics, comme les Invest, que ce soit à Bruxelles ou en région Wallonne, où voilà, il y a justement cette idée de, on essaie de mobiliser les investisseurs privés de manière constante, en amenant de plus en plus d'investisseurs privés dans le marché. On essaie d'identifier des sociétés qui sont susceptibles de lever des fonds auprès de ces investisseurs, et on va essayer tous ensemble de changer la donne pour le futur, parce qu'on sait que ce sont les PME, enfin c'est... Il faut créer beaucoup, beaucoup plus d'entreprises pour qu'un certain nombre d'entre elles, demain, deviennent des scale-up, pour qu'un certain nombre d'entre elles, après-demain, deviennent des grandes entreprises qui emploient beaucoup de monde et qui vont donc voilà, payer des impôts, ouais, payer des taxes, etc., et structurer la société. Donc, évidemment, le capital risque, ce n'est pas pour 100% des sociétés. On est probablement sur 5% du tissu des sociétés qui sont un jour amenées à lever du capital risque, mais c'est celles, en général, qui sont le plus innovantes, qui vont casser les codes, qui vont réinventer la façon dont on fait les choses. Et donc souvent, celles-là, elles prennent un peu plus de temps pour aller sur le marché. Elles ont plus de mal à se financer au début. C'est pour ça que les business angels sont là. Mais après, quand elles réussissent dans des proportions qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, on va créer beaucoup plus d'emplois. Et donc, c'est pour ça que, oui, c'est une vocation, je dirais même, c'est l'ADN de Be Angels d'être aussi un opérateur de développement économique aux côtés des régions.
Alors, ce week-end, nos téléspectateurs ont peut-être envie de faire une découverte culturelle. Qu'est-ce qui, généralement, vous inspire? Qu'est-ce que vous leur conseillerez?
Alors, je pense que ce week-end, il va y avoir quelque chose de sympathique à faire, qui est le Brussels Bright Light Festival, non, le festival de la lumière, oui, qui se passe ce week-end. Et je crois que ça devrait être très sympa avec Bruxelles et plusieurs quartiers.
Et tout ça éclairé, et illuminé,
jeux de lumière et tout ça. Donc, je pense que ça va être quelque chose de sympathique à faire pour découvrir ou redécouvrir la ville, et puis quelque chose d'assez familial aussi. Donc, moi, je recommanderais cette activité.
Vous allez vous promener à Bruxelles, alors?
Je pense bien, oui. Je pense que ça fait partie du programme.
Bon, le retour de la lumière et du printemps, ça fera du bien à tout le monde aussi.
Exactement.
Hein.
C'est pareil, bon pour la vitamine D.
Exactement. Alors, dans l'entretien et l'expression que vous aviez fin de l'année, vous avez aussi évoqué, ça rejoint un peu ce dont on parlait avant, un double discours politique. Est-ce que vous avez parfois l'impression, je dirais que oui, moi, en suivant un peu l'actualité politique, que... parfois on soutient l'esprit d'entreprise, parfois c'est plus compliqué, quoi. Et que ce double discours-là n'est peut-être pas évident à gérer pour des entrepreneurs, des investisseurs. C'est ça que vous exprimiez ?
Exactement. Donc le fait que ce double discours, ce manque de cohérence dans le discours, rajouté à une instabilité économique, financière, ne fait que rendre les choses beaucoup plus difficiles pour les entrepreneurs, les investisseurs et les intermédiaires ou voilà, les acteurs dans ce marché comme nous. Et donc, ma frustration venait surtout du fait de se dire que si on veut être un pays d'innovation, d'entrepreneuriat, il faut l'assumer. Si on ne veut pas l'être, il faut l'assumer aussi. Mais par contre, être entre les deux et se dire qu'on veut des licornes ou on veut soutenir les entreprises et d'un autre côté faire tout ce qu'on peut pour ne pas avoir des politiques en faveur de ça, ou alors comme sur l'histoire des droits d'auteur,
j'allais dire c'était un élément qui a marqué beaucoup
mais pour moi c'est un élément qui a marqué dans le manque de concertation et le manque de préparation, la question,
le manque de connaissance peut-être aussi en fait, oui, de certaines pratiques.
La question pour moi était surtout de se dire la façon, je dirais, dont les développeurs utilisaient les droits d'auteur pour une partie de leur rémunération, c'est une chose, mais la façon dont la modification de la loi a été préparée, le manque de concertation, le fait de se dire, mais en fait, est-ce qu'en Belgique, on a besoin de garder des développeurs? Est-ce qu'on veut vraiment être un des leaders européens dans des domaines où on est extrêmement bon, comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la fintech? Donc, on a besoin de ces profils. Donc, c'est interpellant de se dire que d'un côté, on a discours en disant, on voudrait, et de l'autre, on dit...
Pionnier, ou en tout cas une place forte en cybersécurité, et en même temps, on coupe l'herbe sous le pied à un modèle, en fait.
Voilà, exactement. Ouais. Donc c'était un peu ça, la frustration, de se dire, on aimerait bien tous ensemble, c'est pas que nous, mais tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ne pas être des Don Quichotte, à essayer de foncer, avec de nouveau des moulins à vent et des choses qui ne facilitent pas notre travail. Donc, si on
veut... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, un environnement fiscal et réglementaire qui à la fois tient compte des contraintes et qui en même temps soit d'une stabilité suffisante pour qu'on puisse se projeter, en fait, c'est ça?
Exactement, qu'on puisse se projeter, en tout cas qu'on ne rajoute pas une incertitude, enfin, à cette incertitude mondiale, voilà, économique et financière, donc qu'on puisse donner un contexte qui permette de se projeter, c'est exactement ça, et que quand on fait quelque chose pour les entrepreneurs ou les investisseurs, qu'on soit sûr qu'on concerte en fait les groupes de travail, je ne sais pas, les représentants des industries qui sont concernées. Ça me paraît la base.
Ça veut dire que, est-ce qu'il y a en fait comme si c'était une révolution culturelle qu'il fallait prolonger, quoi. Il y a une volonté de soutenir, dit-on, l'esprit d'entreprise. On sait que c'est important face aux défis qui nous préoccupent. Et en fait, c'est comme si on n'avait pas converti l'essai dans les politiques que l'on développe, quoi.
C'est comme s'il y avait en fait une incohérence entre le discours de ce que doit devenir la Belgique ou la façon dont la Belgique doit se transformer. Et le fait qu'on ne comprend pas que ça va passer par l'entrepreneuriat, le soutien à l'entrepreneuriat, la mobilisation d'investissements privés, parce que l'État ne va pas pouvoir tout financer. Et donc, je crois que là, c'est une révolution culturelle peut-être, mais je crois que c'est simplement une frustration de dire on ne veut pas, dans un jour, être mis sur un pédestal parce que c'est génial, on crée des sociétés, on crée de l'emploi, et de l'autre, de dire oui, mais quand même, il ne faut pas non plus qu'on soit trop favorable, qu'on crée trop de contexte qui, je dirais, soit trop favorable aux entrepreneurs, aux investisseurs. Donc, la révolution culturelle, c'est se dire que la croissance, elle va venir de l'innovation. Et l'innovation, elle est portée par les entrepreneurs. Et que donc, à partir du moment où on ne comprend pas ça, effectivement, il y a un peu une frustration de la part des entrepreneurs de ne pas être pris au sérieux, en disant voilà, on essaie de trouver des solutions. Alors oui, on ne va pas tous réussir. Hein. Probablement qu'une grande partie, surtout ceux qui prennent énormément de risques, vont rater. Et bien donc, comment est-ce que la Belgique va créer les conditions pour qu'on puisse créer plus facilement, pour qu'on puisse rater plus facilement, pour qu'on puisse mobiliser les milliards qu'il y a sur les comptes d'épargne dont on parle tout le temps, hein. Comment est-ce qu'on va faire pour mobiliser le fait que les fonds de pension, par exemple, puissent investir dans le capital risque? Donc, quand est-ce qu'on a un discours cohérent qui fait qu'on comprend que le futur va passer par l'innovation et l'entrepreneuriat et qu'on se donne les moyens pour pouvoir soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs.
Et que cela se fasse ici aussi, parce que j'imagine que la tentation peut aussi être de dire à un moment, je vais le faire ailleurs.
Mais c'est toujours, oui, de nouveau, c'est un discours. On se dit, on aimerait bien que les sociétés restent en Belgique pour se développer, on aimerait bien qu'elles restent en Europe. Oui, mais il y a un manque d'ambition. Et il y a un manque de réalisme et de pragmatisme qui fait qu'aujourd'hui, ça reste des belles paroles. Et je pense que les entrepreneurs, ce sont des personnes d'action. Et donc, ça manque un petit peu de l'action politique qui soit, de nouveau cohérente et ambitieuse.
Alors, un élément dont on a parlé récemment, parce que le gouvernement fédéral a mis en place un plan de soutien, notamment pour l'accès au financement, c'est l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que le monde de l'entreprise, et en l'occurrence de l'innovation, des start-up, etc., est-ce qu'il est suffisamment féminin? Est-ce qu'il l'est de plus en plus? Et est-ce que c'est pour vous une dimension importante?
Alors, c'est une dimension importante de toute façon, parce que quand il n'y a pas de diversité, je crois qu'on rate de toute façon, on rate tout. Parce que c'est ça qui crée la richesse, dans les familles, dans la société, peu importe, dans les entreprises. Donc ça, c'est sûr. L'entrepreneuriat au féminin, donc c'est déjà très positif qu'il y ait ce signal, en fait, qui est donné. Oui, c'est un signal pour dire que ça doit être un point d'attention et que ça ne doit pas être, quelque chose d'anecdotique ou de temporaire. Donc on essaie de... Je trouve que ce qui est bien, c'est un signal sur plusieurs... Voilà, un engagement sur une tendance de fond. Maintenant, l'entrepreneuriat au féminin, effectivement, on voit bien que les femmes, alors il y a une tendance qui est positive, mais elle crée quand même moins de sociétés. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui existent à Bruxelles ou en région wallonne, comme partout, pour aider les entrepreneurs au féminin à se créer des réseaux, à s'entraider.
Accès au financement, on l'a dit.
Accès au financement. Donc en ce qui concerne de nouveau les femmes entrepreneurs qui vont avoir vocation à créer des sociétés innovantes et à fort potentiel de croissance, qui sont celles que nous allons voir. Nous, notre expérience, c'est qu'on en rencontre de plus en plus, heureusement, et que quand elles présentent, en tout cas auprès de nos investisseurs, elles sont très bien préparées et dont elles ont, je dirais, des grandes chances d'être financées parce que peut-être elles ont eu un parcours un petit peu plus compliqué pour arriver là. Nous, en tout cas, sur les dernières années, on a un bon nombre de sociétés financées qui sont portées par des femmes fondatrices ou cofondatrices. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge. Donc, effectivement, l'accès au financement, ça doit être une priorité et une priorité où on va en fait utiliser les intermédiaires qui peuvent être B-Angels pour le capital risque, mais aussi beaucoup les banques qui sont celles qui sont responsables de la majorité du financement finalement des entreprises, d'être sûr qu'il n'y a pas de biais négatif quand elles voient un dossier d'une femme entrepreneur, parce qu'on dit souvent que voilà, la façon dont les business plans sont construits sont peut-être un peu plus défensifs, peut-être qu'elles sont moins prêtes aussi à discuter avec des financiers. Et donc, cette initiative donne l'occasion de savoir comment est-ce qu'on peut ajuster la façon dont chacun d'entre nous fonctionne pour qu'on ait davantage de femmes entrepreneurs financées.
Ce serait en tout cas une évolution souhaitable et importante. Merci beaucoup, Clairement, qu'on a pris du
Merci
temps pour montrer aussi que l'investissement peut être une réponse à toutes les transitions qu'on traverse, que l'innovation est en tout cas toujours une solution. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une autre édition de ce Trends Talk. Merci à vous.